Et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères, vous le savez, l'épisode qui se déroule ici, le double épisode croisé, c'est une manifestation très forte de la foi dont il est question et qui nous est donnée à contempler. Pour contempler proprement cette double manifestation de la foi, je vous propose de suivre les deux actions qui sont posées par les deux acteurs qui sont autour du Christ aujourd'hui. Les deux actions, c'est d'abord s'approcher et ensuite toucher. S'approcher du Christ pour manifester sa foi, c'est à la fois une action et une position. Je m'explique, une action qui exige un effort et une position qui suppose un certain risque. Une action qui exige un effort, il s'agit d'un chef. On sait qui c'est, pas un chef, on sait de quoi il est chef, c'est le chef de la synagogue, c'est Jaïr, c'est saint Luc qui nous le dit, pas saint Matthieu, mais c'est le même épisode qui nous est raconté. Et de l'autre côté, c'est une femme hémorroïs, c'est-à-dire au regard de la loi juive, quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle de la sainteté, puisqu'elle ne peut jamais être pure. Voilà donc toute la synagogue convoquée, du chef de synagogue, le rabbin, jusqu'à la femme qui ne peut pénétrer et qui ne peut avoir part aux assemblées de prière, tout le monde est convoqué au passage du Christ. Cela suppose évidemment un effort, cela suppose d'y aller, cela suppose donc que la foi, c'est d'abord un acte. Combien ai-je entendu parfois de gens qui se lamentaient de n'avoir pas la foi et qui ne faisait rien pour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, ça peut arriver, c'est un don de Dieu la foi, c'est un don surnaturel. Mais il faut pouvoir vous y disposer. Il faut pouvoir vous y disposer, c'est ce que vous faites en venant à la messe, c'est ce que vous pouvez faire en priant, c'est ce que vous faites en visitant nuitamment le Saint-Sacrement exposé dans un endroit où il y a une adoration perpétuelle. Bref, c'est ce que vous faites, c'est l'effort que vous faites pour tenter de vous porter au devant du Seigneur. Même si la foi reste un don surnaturel, il faut que notre nature puisse l'appeler. Et oui, si vous ne plantez ni n'arrosez, vous serez sûr de n'avoir pas de fleurs. Il faut donc cet effort, il faut tenter de s'approcher du Seigneur, et c'est ce que fait ce chef de synagogue, pourtant bien occupé certainement, à enterrer sa fille, à lui donner déjà, il a convoqué les joueurs de flûte et les pleureurs autour d'elle. Il est certain humainement de sa mort, et pourtant, il va partir, il va sortir pour rencontrer le Christ. Cette femme également se rapproche de lui, elle ne s'approche pas de face et publiquement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas ne peut normalement sortir. Et donc, elle y va par derrière, elle y va discrètement. Mais qu'on y aille de manière très manifeste ou de manière secrète, les deux se dirigent vers le Christ. Oui, allez à la messe, faites une retraite, retirez-vous dans votre chambre pour prier. Bref, d'une manière ou d'une autre, faites ce que vous pouvez, vous-même, pour vous rapprocher du Christ. Le chemin que nous parcourons est évidemment minime, est évidemment petit, mais c'est le chemin qui est nécessaire pour que le Seigneur, par sa volonté, se rapproche de nous. Parfois, nous n'avons pas envie, je n'ai moi-même pas toujours envie de dire l'office, je n'ai pas toujours envie de méditer un passage de l'Évangile, je n'ai pas toujours envie, et ce n'est pas pour ça que je suis un mauvais chrétien. Un père de famille, une mère de famille n'ont pas toujours envie de faire ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, ils sont bons parce qu'ils le font. C'est donc une action. C'est une action qui suppose donc une position vis-à-vis du Seigneur, et je disais une position risquée. Le chef de synagogue se risque beaucoup à reconnaître le Seigneur comme Dieu. Vous l'avez vu, il se prosterne en arrivant devant lui, c'est-à-dire qu'il manifeste publiquement devant tout le monde que c'est bien lui, le Seigneur. La femme, elle, prend un autre genre de risque, puisque ne pouvant approcher la foule, elle se risque à s'y glisser, au risque peut-être d'être rejetée, sinon frappée. c'est-à-dire que tous les deux prennent un risque qui est à leur hauteur, qui est différent, mais tout de même, ils prennent un risque. Alors oui, mes bien chers frères, quand nous prenons cette position d'être des chrétiens, de le manifester, nous prenons nécessairement un risque. Je sais qu'il est plus facile pour un prêtre qui a pris cette décision et pour lequel c'est déjà visible, alors que, en quelque sorte, vous qui êtes dans le monde, cette question se repose à vous sans cesse. Soyez bien certains qu'elle se pose aussi aux prêtres, en fait, de témoigner, de ne pas s'arrêter, de rendre compte de l'espérance qui est en lui. Mais vous aussi, en quelque sorte, le choix vous est offert à chaque fois, dans votre famille parfois, en tout cas dans votre travail souvent, dans le monde toujours, de vous repositionner comme un disciple du Christ, comme quelqu'un qui a reconnu son Sauveur, comme quelqu'un qui sait que c'est là la solution de sa vie. Et oui, ce risque est de loin préférable à celui que prennent ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur. Ceux qui ne le reconnaissent pas prennent le risque qui nous est montré ici, c'est la mort, tout simplement. Vous avez peut-être vu qu'il y a une correspondance entre l'âge de la petite fille, enfance, elle sort de l'enfance, elle a certainement autour de 10 et 12 ans, et justement la femme, elle, est captive de sa maladie depuis 12 ans. 12 ans d'esclavage, 12 ans pour arriver à la mort, voilà ce que risquent ceux qui ne veulent pas vivre avec le Seigneur, ceux qui le refusent, ceux qui refuseront Dieu, refusent de vivre. Et ils toucheront le salaire de leur propre position. Elle semble plus assurée dans le monde, en tout cas plus tranquille, certainement. Elle ne l'est pas au regard de la vie éternelle. Elle ne l'est même pas au regard du bonheur qui est déjà promis aux élus ici-bas d'avoir part à la vie éternelle. C'était mon premier point, s'approcher du Christ, c'est manifester sa foi. Mais il y a plus. Ici, dans chaque miracle qui est rapporté du Seigneur, il y a toujours une chose particulière, et vous l'avez peut-être remarqué ici, ce qui est remarquable, c'est qu'il touche. C'est que la femme tient beaucoup à toucher le manteau du Seigneur, et que le Seigneur va ressusciter cette petite fille en lui prenant la main, c'est-à-dire en la touchant. Ici, je vais évoquer la question des rites, la question de la forme et du fond qui se pose sans cesse, qui peut se poser dans les rites de la foi, mais qui se pose dans tous les rites sociaux. C'est une question qui traverse toute notre vie. Qu'est-ce qui est important ? Parce que nous sommes parfois un peu dualistes et nous aimons à savoir, est-ce que c'est important de faire des choses, de faire des gestes, de montrer des choses, ou est-ce que c'est important de les penser, de les ressentir? Alors, je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est les deux, évidemment. Parce que si vous tentez de dissocier la forme du fond, eh bien, vous allez tomber dans l'erreur. Soit vous allez tomber dans l'erreur qui fait que, ne posant des gestes, vous vous interdirez bientôt de les penser, et si vous ne faites jamais votre signe de croix, par exemple, vous pouvez très bien dire, vous savez, là, c'est pas le fait de faire le signe de croix sur soi qui fait qu'on croit en Jésus-Christ mort sur une croix. C'est vrai. Vous pouvez très bien rentrer dans cette église, ne pas faire le signe de croix, être un peu fatigué, ne pas faire le signe de croix. Vous y êtes quand même, vous êtes venu à la messe, vous avez réussi. Mais petit à petit, si vous ne faites jamais le signe de la croix, vous allez vous éloigner de cette foi en Dieu ressuscité, Père, Fils et Saint-Esprit qui se donne à nous. Parce que les gestes expriment ce que nous croyons. Aussi, ils sont importants. L'autre, danger évidemment, si vous séparez l'un de l'autre, c'est l'hypocrisie. On peut, je le sais très bien, faire 10 signes de croix et ne croire en rien du tout. On peut être parfaitement superstitieux, c'est vrai. Mais voilà, ne vous aventurez pas à juger des gestes, car personne ne peut juger du cœur des gens. Dieu seul connaît le cœur de l'homme, Dieu seul peut savoir le sens d'un geste. Et nous, nous avons besoin de manifester ce que nous croyons. Un homme ou une femme qui ne dirait jamais à son époux ou à son épouse qu'il l'aime, sous prétexte que la chose est entendue parce qu'ils se sont mariés, parce qu'ils élèvent leurs enfants ensemble, alors point n'est besoin de se dire qu'on s'aime, effectivement. Point n'est besoin, si c'est entendu. Vous le voyez, ce n'est pas vrai. Nous avons besoin, sans cesse, il est nécessaire que nous manifestions la foi qui est la nôtre, le sentiment qui est le nôtre, la pensée qui est la nôtre, pour que lui donner une existence. Je vous encourage donc beaucoup à vous adonner à ce qu'on appelle la dévotion, qu'elle soit, on lui a donné le nom de populaire, mais c'est un peu négatif aujourd'hui le mot populaire peut-être, mais ça veut dire que c'est pour tout le peuple, hein. C'est-à-dire utiliser de l'eau bénite, vous pouvez utiliser de l'eau bénite chez vous, vous pouvez embrasser votre chapelet quand vous le dites, vous pouvez bénir vos enfants, vous savez peut-être d'ailleurs que vous avez pouvoir tout particulier pour ce faire, bref, vous pouvez sans cesse poser des gestes, vous pouvez porter par exemple le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, tout ça ce sont des gestes, tout ça ce sont des rites, tout ça c'est extérieur, mais c'est ce qui est le garant et le port de votre foi. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, nous le savons bien, c'est le Concile de Trente qui le dit, mais justement le Concile de Trente avec une infinie finesse dit ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Toutefois, il est demandé aux religieux de porter leur habit et aux prêtres de le manifester dans un habit adéquat, de sorte qu'eux-mêmes se rappellent en le portant qu'ils le sont et qu'ils le manifestent à tous. Oui, les sens, puisqu'il s'agit de ça, sont les fenêtres de l'âme. L'utilisation de nos sens, c'est déjà le début d'une véritable prière intérieure. Vous le savez bien, nous avons besoin, quand nous prions, d'un endroit particulier, d'une position particulière, d'une paix qui est faite par les gestes que nous allons employer. Saint Ignace de Loyola, dans ses recommandations sur la prière, recommande les cinq sens comme les moyens de pénétrer au plus profond de mon âme. Oui, le toucher, le doigté que je peux avoir, l'odeur de sainteté que d'aucuns répandent, le goût de miel et de douceur de certaines paroles, la vue délicate et les voix célestes sont autant d'expressions qui nous indiquent que les sens ne sont pas que des choses purement extérieures, mais qu'elles touchent le fond de mon âme. Alors, il nous faut, avec la même foi qu'ont manifesté cette femme, Hémorroïs, et Jaïr, le chef de la synagogue, utiliser toute notre vie, tous nos sens, tout notre être, pour pénétrer à l'intérieur de notre âme. Notre vie intérieure, le sens plus intérieur de notre vie, est au prix de la convocation de tout notre être. Nous ne pourrons pas être des hommes intérieurs, des âmes intérieures, si extérieurement nous n'avons pas convoqué le reste de notre être. N'ayez peur de poser ces gestes, entrez dans la foi à genoux et en priant, afin de pouvoir vous manifester à vous-même et de supplier le Seigneur de venir à vous.